Mondial Sport sur RFI. Frédéric Gassman.
Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Actualité chargée ce soir, notamment sur le continent africain avec la suite du comité exécutif de la Confédération africaine de football et les quarts de finale retour des deux Coupes d'Afrique des clubs. Une actualité développée dans un instant par Hugo Moissonnier. Nous irons également en Italie où se jouait hier, nous dira Matteo Cioffi, un très chaud derby turinois. Et puis en Allemagne où le Bayern de Munich n'est pas au mieux à quelques jours de son match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Température prise sur place par Julien Méchaussier. Une page rugby avec Olivier Sclaveau. Demain à Londres, ce sera le grand oral pour les trois nations candidates à l'organisation de la Coupe du Monde 2023, la France, l'Irlande, l'Afrique du Sud. Et puis aux États-Unis, le basketteur Kevin Durant a-t-il, comme on dit, pété les plombs? En tout cas, il est à l'origine d'une belle polémique, nous dira Grégoire Pourtier. Enfin, l'homme du jour est slovaque, il s'appelle Peter Sagan. Il est devenu pour la troisième fois de suite champion du monde de cyclisme sur route cet après-midi à Bergen en Norvège. Trois titres consécutifs, c'est une première dans l'histoire du vélo. Jean-Luc Gatelier du quotidien L'Équipe était sur place notre observateur. Mais notre observateur en ce qui concerne la septième journée de Ligue 1 du championnat de France de football qui s'achevait ce dimanche ce soir, c'est Eric Mamrut. Bonsoir Eric.
Bonsoir Frédéric.
Trois matchs à l'affiche. L'info du soir, c'est que l'Olympique de Marseille poursuit son redressement.
Troisième victoire consécutive pour l'OM qui, après Cognac-Sport et Amiens, s'est payé le scalp de Toulouse. Ce soir au Vélodrome, succès 2-0 avec des buts de Thauvin et Ocampos. Du coup, Marseille grimpe à la cinquième place du classement et se redonne du moral. La satisfaction du défenseur Adil Rami.
C'est vrai que ça fait plaisir. Là, depuis quelques temps, on arrive à retrouver les chemins des filets, on gagne et on n'avait pas trop la manière. Et aujourd'hui, avec le temps, voilà, il fallait commencer par être plus défensif. Ce qu'on a réussi à faire, et maintenant, avec un peu plus de confiance, on arrive à dérouler un peu plus de jeu, de football. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on a vécu un moment difficile. Il faut s'en servir pour continuer sur cette lancée, mais le plus difficile reste à venir maintenant.
À noter que le stade Vélodrome a arboré avant le match des banderoles de soutien à Bernard Tapie, l'ancien président de l'OM, actuellement hospitalisé pour un cancer à l'estomac.
Et puis, Eric, en début d'après-midi, à votre grande dame, Saint-Etienne avait perdu sa place sur le podium.
La faute à un match nul à domicile contre Rennes, 2-2. Les Verts menaient 2 au score suite à des buts de Bourigeaud et Casery ont su à chaque fois revenir. Gabriel Silva et Bamba ont ainsi marqué pour décrocher finalement un point qui ne contente pas le milieu de terrain d'origine burkinabé de Saint-Etienne, Brian Dabo.
C'est un point amer parce qu'on est à domicile. Après, on a beaucoup souffert en première mi-temps. C'était un système un peu nouveau, donc ils nous ont dominé clairement la première mi-temps. Ils étaient meilleurs dans les intentions, dans les duels physiques, dans la vitesse de jeu, dans la qualité de passe, dans à peu près tout. Après, on a changé de système en deuxième mi-temps, on est revenu à notre système classique. Ça a été un peu mieux. C'est une déception, mais c'est pas quelque chose qui me préoccupe. Parce que si on arrive à retrouver le niveau de jeu qu'on a eu ces derniers temps, on va vite remonter. Mais c'est pas quelque chose qui... Je suis pas focalisé là-dessus. Moi, ce qui me préoccupe, c'est plus de gagner les matchs plutôt que de dire on est troisième, on est deuxième. C'est anecdotique.
Brian Dabo, les Verts. Les Verts désormais quatrième à une longueur de Bordeaux. Les Verts talonnés à un point par Marseille et Nantes.
Nantes, les Canaries, vainqueurs à Strasbourg, 2-1 en fin d'après-midi. Da Costa avait pourtant ouvert le score pour les Alsaciens, mais Thomasson puis Dubois ont vite répliqué. Et même s'ils ont beaucoup subi par la suite, les Nantais ont su tenir pour décrocher leur cinquième match sans défaite. Écoutez le soulagement du défenseur David Alcibiade.
C'était pas facile, hein. On n'avait pas le ballon. C'est vraiment une équipe qui joue très très bien au football, qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais voilà, on a su faire bloc et rester compact et très solide derrière. C'était le plus important aujourd'hui. Ouais. C'est un travail de tout un collectif depuis le début de saison. On a travaillé très dur à l'entraînement, tactiquement, et aujourd'hui ça paye. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus efficace offensivement, mais sinon vraiment défensivement, on est très très solidaire et ça fait plaisir de nous voir unis comme ça, quoi.
Les Nantais se retrouvent donc cinquième ex aequo avec Marseille. Quant aux Strasbourgeois, ils restent avant-dernier derrière Lille et devant Metz.
Lille, Strasbourg et Metz donc en position de relégable. Merci Eric, bonsoir Hugo Moissonnier.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Dans l'actualité également, on le disait, le football en Afrique avec le dénouement ce dimanche de la Coupe des Nations de l'UFOA, l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football.
Un tournoi remis sur pied cette année au Ghana, principalement à Cape Coast, grâce notamment à l'apport financier d'une télévision américaine. Le suspense est insoutenable, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Le pays hôte, Frédéric, remporte la compétition. Victoire du Ghana face au Nigeria en finale ce dimanche, large succès. C'est même 4-1. Le Niger, de son côté, a pris sa revanche face au Bénin à l'issue du match pour la 3e place. Les deux équipes s'étaient déjà croisées lors d'un match à rebondissement au premier tour et le Bénin cette fois s'est imposé 2-1 grâce à des réalisations de Garba Idrissa à la 29e et d'Adebayor Pacheyi, un autre à la 84e. Nabil a réduit le score à la 91e. Le podium, c'est une bonne consolation, nous dit l'entraîneur adjoint du Niger, Cheikh Oumar Diabaté.
Et notre objectif, c'était vraiment d'aller gagner ce trophée. Ça n'a pas été facile parce qu'on a eu sur notre chemin le pays organisateur qui était encore plus frais que nous devant son public. On a dû se batailler fort, mais on n'a pas pu passer les demi-finales. Maintenant, nous allons nous contenter de la 3e place parce que, pour une première édition, je pense que c'est bon pour nous parce que, vu notre effectif et qui est encore très jeune, moi je dirais que vraiment on a gagné en expérience surtout. Donc vraiment, c'est important pour nous.
Des propos recueillis par TTLJ.
Au programme de ce dimanche décidément très cossu en matière de football africain, les quarts de finale retour des coupes continentales de clubs. On connaît donc maintenant la composition du dernier carré en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération.
Et dans cette dernière, le tenant du titre n'a pas fait de détail pour valider son billet et rejoindre le FUS de Rabat, son futur adversaire en demi. À Lubumbashi, devant ses supporters, le tout-puissant Mazembe a largement dominé ce dimanche les Soudanais du El Hilal El Obeid. Succès 5-0, c'est plus que suffisant pour des corbeaux qui s'était déjà imposé 2-1 à l'extérieur. Un homme s'est particulièrement distingué aujourd'hui, l'attaquant Ben Malango, Pascal Mouangala.
C'est peut-être tôt lui attribuer le statut de la star, mais artisan de la qualification du TP Mazembe, nul ne peut le contester. Déjà double buteur à l'aller, Ben Malango s'est également illustré à domicile dans le succès 5-0 face aux Soudanais. Auteur du 3e but à la 54e minute, d'une frappe en pivot pleine lucarne, Malango était également à l'origine du coup franc transformé par le doyen Jean Kasusula pour l'ouverture du score à 5 minutes de la pause. Dans ce match qui s'est véritablement emballé en seconde période, un autre jeune s'est fait remarquer dans le rôle de passeur. Oshindi Wakubanza, deuxième sortie, une première titularisation chez les Corbeaux. L'ancien de l'école de foot, Katumbi, s'est offert trois défenseurs soudanais avant de centrer au ras de gazon pour le but de Adama Traoré à la 49e minute. Un rythme qui a peut-être réveillé Eliam Ishak pour le quatrième but à la 84e minute. Pour clôturer la série, Joe Isama va également s'inviter à la fête dans les arrêts des jeux d'un centre-tir de l'extérieur du pied droit. 5-0, Mazembe lance là peut-être un signal fort. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Hugo, une dernière équipe s'est qualifiée pour le dernier carré aujourd'hui même.
Elle est tunisienne, cette équipe, le club africain. L'autre équipe de Tunis a refait son retard sur les Algériens du Mouloudia d'Alger. Défaite 1-0 à l'aller, succès 2-0 au retour ce dimanche. Le club africain affrontera les Sud-Africains de Supersport United en demi-finale de la Coupe de la Confédération.
On passe à la Ligue des Champions. Ça passe pour d'autres Tunisiens, ceux de Sousse, ceux de l'Étoile du Sahel.
Ça passe face aux Libyens du Al Ahly Tripoli. À l'aller en Égypte, les protégés d'Hubert Velud avaient obtenu un match nul, 0-0. Ils ont confirmé ce dimanche avec une victoire 2-0 chez eux, vous l'avez dit, à Sousse. Demi-finaliste de la Coupe de la Confédération l'an passé, l'Étoile du Sahel affrontera un ogre, le Al Ahly du Caire, au prochain tour.
Le Al Ahly du Caire, qu'on appelait autrefois le National du Caire, il a réalisé, lui, une très belle performance, mais c'était hier.
Un succès 2-1 sur la pelouse de l'Espérance de Tunis, un autre cadre de la scène africaine. Il y avait quand même 10 Ligues des Champions sur la pelouse hier, Frédéric, 2 du côté de l'Espérance, 8 du côté du Al Ahly, c'est un record. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un nul de partout. Les Tunisiens semblaient avoir fait un grand pas vers la qualification, mais après avoir ouvert la marque en première période, ils ont encaissé 2 buts après la pause. Ce match pourrait donner des idées aux joueurs du Al Ahly pour la suite, estime l'entraîneur du club, Oussem Badri, qui a tenu également à rendre hommage à son adversaire.
Je suis heureux de venir à Tunis, même si ces rencontres face aux équipes tunisiennes sont toujours difficiles. C'était un match très important et comme je l'avais annoncé, c'était une véritable finale avant l'heure entre deux grandes équipes africaines. L'Espérance est un grand club, tout comme le Al Ahly. De ce fait, rien n'a été simple, ni pour eux, ni pour nous. Je l'avais prédit avant même le match aller, j'étais convaincu que la qualification allait se jouer ici, à Rhadès. J'avais prévu que la différence de but allait être minime compte tenu de la valeur des deux équipes. Heureusement, nos efforts ont été récompensés et cette rencontre sera pour nous une référence car nous avons affronté une belle formation de l'Espérance. Notre entame de match a été exemplaire, chaque équipe a eu sa période de domination, mais nous avons parfaitement exploité la nôtre pour remporter cette confrontation.
Oussem Badri, l'entraîneur du Al Ahly, interrogé après le choc sur la pelouse de l'Espérance hier par Farouk Kattou. Autre qualification remarquable ce samedi, celle du Wydad Casablanca qui a sorti le champion d'Afrique en titre, le Mamelodi Sundowns, dès les quarts de finale. Le Wydad Casablanca affrontera l'USM Alger au prochain tour. Les demi-finales des Coupes d'Afrique de clubs débuteront dès la semaine prochaine.
RFI à Accra, 89.5 FM.
Mondial Sport en direct sur RFI. Retour à présent sur la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'était hier, c'était à Accra, au Ghana.
À Accra, justement, le programme était chargé. 20 sujets étaient à l'ordre du jour. Après le symposium organisé au mois de juillet à Rabat, cette réunion au Ghana aura permis aux dirigeants de la CAF de prendre une nouvelle décision radicale. Elle ne concerne pas le Cameroun, qui pour l'instant est toujours le pays hôte de la CAN 2019. Elle concerne plutôt le Kenya, qui sont surprise, n'organisera pas le CHAN 2018. Élu il y a moins d'un an à la tête de l'instance, le malgache Ahmad avait déclaré qu'il saurait se montrer intransigeant envers les pays devant accueillir des compétitions continentales. Force est de reconnaître, que sur ce point, il semble avoir dit la vérité. Reportage Comlan Eclou.
Les décisions les plus attendues concernaient le CHAN 2018 et la CAN 2019. Sans surprise, l'organisation du CHAN a été retirée au Kenya. Explication du président de la CAF, M. Ahmad Ahmad.
Le doute subsiste sur tout le plan, que ce soit en infrastructure sportive ou l'atmosphère au Kenya. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser la compétition dans ce pays. Nous avons retiré cette compétition de Kenya.
Cette décision, le président de la Fédération malienne de football, le général Aboubakar Diarra, dit la comprendre.
Et j'ai appris comme vous la décision. Alors moi, je dis que chaque compétition a ses règles. Et lorsque on se présente à une compétition, surtout à une phase finale, il y a des cahiers de charges que nous devons remplir. Et ça, c'est des critères, les premiers critères qu'il faut remplir pour pouvoir organiser la compétition.
Du coup, le choix de nouveaux pays s'impose. Il se fera dans les 15 jours suite à un appel d'offres déjà lancé. Avec le Cameroun, par contre, rien n'est encore tranché. Ahmad Ahmad, président de la CAF.
On n'a jamais mis en doute l'attribution de cette CAN au Cameroun. Mais par contre, nous nous sommes toujours inquiétés sur les préparatifs. C'est tout à fait notre droit. Parce que la CAN nous appartient, il est de notre devoir de la protéger. Le comité exécutif a donné mandat au président du comité d'organisation de réunir ce comité le plus tôt possible et préparer l'appel d'offres pour le choix du cabinet qui va assister les experts pour la visite d'inspection.
Le grand gagnant de cette réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football à Accra, c'est bien le Maroc, qui a reçu le soutien de la Confédération africaine pour sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ce qui réjouit le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Agbovi.
J'aimerais bien aussi que la Coupe du Monde soit jouée en Afrique, ça serait une deuxième fois. Et sans vous mentir, aujourd'hui, la Fédération marocaine est en train de faire un travail énorme pour les fédérations africaines. Et je crois que beaucoup de pays vont l'épauler. Jouer la Coupe du Monde en Afrique, ça serait bénéfique pour tous les Africains.
Selon les observateurs, le Maroc semble bien placé pour récupérer le CHAN retiré au Kenya. Comlan Eclou, Accra, RFI.
Et le nouveau pays hôte du CHAN sera connu dans une quinzaine de jours. Il y a urgence puisque le coup d'envoi de la compétition est prévu le 12 janvier.
Pour refermer cette première partie de Mondial Sport, Hugo, un entretien avec un international congolais parti se relancer en Amérique du Nord.
Le défenseur Chris Mavinga. À 26 ans, il veut jouer. Tout n'a pas été simple jusqu'ici pour l'ancien international espoir français, passé par l'Hexagone, mais aussi la Belgique et l'Angleterre au début de sa carrière. Après des saisons difficiles en Russie, entrecoupé de prêts à Reims et à Troyes, Il a fait le bon choix l'hiver dernier en traversant l'Atlantique. Il porte les couleurs du FC Toronto qui domine pour l'instant la conférence Est de la Major League Soccer, la Ligue nord-américaine. L'équipe est même déjà qualifiée pour les playoffs. Grâce à ses bonnes performances, Mavinga espère retrouver les Léopards de la RDC. Son compteur reste pour le moment bloqué à 4 sélections. Romain Chouet l'a rencontré.
C'est le rêve américain. C'est vrai que en arrivant ici, j'expectais ça parce que je savais que j'arrivais dans une bonne équipe qui avait fait une bonne saison l'année dernière. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien pour nous. On est content et on est promis. On va essayer de bien terminer ce championnat.
Et pour vous aussi, vous retrouvez les terrains, vous retrouvez peut-être même l'envie de jouer après des années parfois un peu difficiles, notamment en Russie où vous n'avez pas beaucoup été sur le terrain. Ça fait du bien d'enchaîner ces matchs-là, ça fait du bien à 26 ans maintenant de retrouver les terrains et l'ambition.
Bien sûr, ça fait du bien. C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je retrouve les terrains. C'est vrai que ça m'avait manqué pendant un long moment en Russie et aujourd'hui j'ai la possibilité d'enchaîner, de prendre du plaisir et en plus gagner des matchs. Donc ça fait du bien à la tête, au moral à chaque fois que je finis un match. Donc je suis content d'être ici et j'espère que ça va continuer.
Est-ce que c'est une nouvelle carrière pour vous qui commence ? Est-ce qu'on nous oublie tout ce qui s'est passé par le passé, on ouvre un nouveau chapitre?
Moi, c'est clairement un nouveau chapitre. C'est une nouvelle carrière, voilà, c'est comme si je recommençais, c'est comme si j'avais 18 ans. J'ai aussi la chance de retrouver mon poste de formation, qui est défenseur central, donc je reprends du plaisir et pour moi, tout ce qui s'est passé, on va dire, avant, je l'oublie parce que voilà, il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a eu des choses positives aussi, il ne faut pas non plus l'oublier, mais je me concentre comme un nouveau joueur et je prends du plaisir à chaque match et j'essaie de démontrer à chaque week-end.
Après la Russie, après les prêts en France, à Reims, à Troyes, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à Toronto et en MLS? Qu'est-ce qui a fait la différence pour arriver ici?
Ce qui a fait la différence, c'est que déjà, j'avais l'opportunité encore de rester en Europe, mais j'avais envie de quelque chose de nouveau. Voilà, ces années en Russie, avec les prêts entre les saisons, ça a été très très compliqué pour moi. Donc je voulais quelque chose de nouveau, et dans une équipe qui tourne bien, et aussi avoir l'opportunité de jouer à mon poste de formation qui était pour moi très important. Et quand le coach m'appelle et me dit que je te prends pour jouer défense centrale, j'ai dit bah, c'est là-bas qu'il faut que j'y aille. Et aujourd'hui, j'ai atterri ici et je suis très content. Je pense que j'ai fait le bon choix. J'espère que ça va continuer.
Est-ce qu'il y avait cette volonté aussi peut-être de quitter l'Europe et de quitter ces a priori aussi que parfois certains clubs, certains supporters avaient sur vous?
C'est vrai que voilà, j'avais une image un peu parfois négative sur moi, mais je connaissais mes qualités, mon potentiel. C'est vrai que je ne les avais pas toujours démontrés en Europe. Donc il y avait un peu de réticence par certains clubs. Mais bon, voilà, je suis arrivé dans un club qui me voulait, qui avait confiance en moi. Donc ça a été pour moi un choix facile et je pense qu'aujourd'hui, ça se voit entre le club et moi-même que tout se passe bien et j'espère continuer longtemps dans ce club et gagner le titre à la fin de saison.
Comment trouvez-vous le niveau de jeu en MLS? On sait qu'il a énormément progressé ces dernières années. Il y a des stars comme Sébastien Jovenco qui joue avec vous, Drogba qui était l'an passé à Montréal, d'autres stars de d'autres équipes également. Est-ce que ce niveau-là, vous le découvrez? Est-ce que vous trouvez qu'il a progressé par rapport à l'image que vous aviez peut-être vous-même il y a quelques années?
C'est vrai qu'en Europe, on a une image qui n'est pas la bonne. C'est vrai, moi, si je suis arrivé aussi dans cette mentalité-là, je ne le cache pas parce que j'ai joué mon premier match ici contre Atlanta. J'ai vu la réalité en face et c'était un match très très difficile pour moi sur un plan personnel. Donc après ce match-là, ça m'a mis une bonne claque. Ça m'a permis aussi de remodir, de me concentrer sur le terrain et me dire que voilà, aujourd'hui, je n'arrive pas dans un championnat facile. Je dois travailler d'être à 100% aux entraînements et aux matchs pour que les performances se suivent parce que voilà, c'est un championnat. On ne se rend pas compte, mais il y a tellement de bons joueurs et de grands joueurs. Et voilà, Seba Jovinko, il joue largement dans un top 5 juste en Ligue 1. C'est un très grand joueur. Et généralement, les équipes adverses sont des très bons attaquants qui peuvent jouer dans des grandes équipes. Et c'est moi, en tant que défenseur, ça me permet aussi de me juger, de travailler, de bosser et d'élever aussi mon niveau.
L'objectif, c'est dans quelques années de retourner en Europe dans un grand club?
Non, franchement, pour l'instant, je pense pas à ça. Je pense à l'équipe aujourd'hui. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui à Toronto parce que voilà, c'est important. On a un truc à jouer. Donc, pensant au futur, des fois, bah, c'est pas toujours bon. Je sais très bien ce que je dis parce que des fois, c'est vrai que je pense un peu trop au futur, mais aujourd'hui il faut que je vive le moment présent parce que voilà, j'ai des moments difficiles, donc aujourd'hui je prends du plaisir et j'essaie d'avancer step by step comme ils disent ici.
Avec ces belles performances avec Toronto en MLS, l'objectif j'imagine c'est aussi de retrouver le maillot des Léopards.
C'est vrai que cette sélection, j'ai pas été pris, j'étais un peu déçu parce que je pense que aujourd'hui je montre que j'ai envie de retourner en sélection. Malheureusement je ne suis pas, j'espère que le coach me regarde, je sais pas s'il me regarde, j'ai pas de contact avec lui, mais en tout cas je me concentre sur moi-même, j'espère oui retourner.
Vivre la Coupe du Monde en Russie en 2018 avec le maillot de la sélection de la République démocratique du Congo, c'est votre rêve?
Bien sûr, c'est mon rêve. C'est un pays que je connais en plus. Donc retourner en Russie avec l'équipe nationale, ce serait pour moi un rêve. Et surtout en plus de jouer la Coupe du Monde. Donc c'est dans un coin de ma tête. J'espère que les gars vont faire le travail. Je continue. J'espère que le coach va m'appeler. J'espère après pouvoir revenir en sélection et participer.
Des propos qui par Romain Chuet. Pour l'instant, la Russie, la RDC n'y est pas, n'est que deuxième de son groupe à deux journées de la fin. On attend la liste de Florent Ibengué pour le prochain match de ses éliminatoires du Mondial 2018 face à la Libye dans une quinzaine de jours.
Merci Hugo, on se retrouve pour la deuxième mi-temps de Mondial Sport de l'autre côté du journal.
Mondial Sport sur RFI. Frédéric Gassman.
Hugo Moissonnier.
Mondial Sport, deuxième mi-temps. Mondial Sport réalisé ce soir avec Quentin Bresson et Jean-Philippe Turi. On prend la direction de l'Italie où nous attend Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir Frédéric.
Plein feu avec vous sur la sixième journée de la Serie A. Le Calcio, l'affiche, c'était le derby turinois, la Juventus contre le Torino. Le Torino qui n'a pas pesé très lourd. Hein.
Non, il n'y a pas eu vraiment d'histoire. Et pourtant, la veille de ce derby, le technicien du Torino, Siniša Mihajlović, avait comparé son équipe au peuple qui lutte contre les patrons, c'est-à-dire la Juve. Eh bien, cette dernière, hier soir, a montré d'avoir le contrôle total de la ville. Car la vieille dame a donné une sévère leçon à son concitoyen. 4-0 le score final, dans une rencontre qui est restée en équilibre seulement dans les premiers 15 minutes, c'est-à-dire jusqu'à quand la Juve va vers le score grâce toujours à lui, Paul Dybala. 8 minutes plus tard, l'arbitre a réduit à 10 Torino et avec l'expulsion du milieu de terrain Davide Baselli. À partir de là, il n'y a plus de match. Pjanic, Alessandro et de nouveau Dybala ont ratifié la sixième victoire d'affilée des Bianconeri.
Alors de son côté, Matteo, Naples, qui est le leader du calcio, hein, est allé gagner 3-2 sur le terrain d'un club qui nous est totalement inconnu. Alors, le ou la SPAL, c'est vous qui allez nous le dire. Qu'est-ce qui se cache, Matteo, derrière ces initiales SPAL?
Alors, on l'appelle le SPAL parce que ça veut dire Société Polysportive Art et Labor. Pour les plus jeunes, disons que ce nom pourrait dire pas grand-chose, mais pas pour les anciens, car ça évoque pas mal de souvenirs, parce que ce club a joué en Serie A jusqu'en 1968, pour y faire retour seulement cette année. Il n'a rien gagné, le meilleur résultat était une finale de la Coupe d'Italie perdue en 1962 face à Naples, mais même avec un palmarès complètement vide, ce club a toujours obtenu le soutien de beaucoup d'Italiens, car dans le passé, il représentait la petite réalité de la Provence italienne qui osait défier les clubs des grandes villes d'Italie. Spal est l'équipe de la ville de Ferrara, qui est une petite ville à 50 km de Bologne.
Et c'est un promu, le SPAL, battu finalement assez difficilement par Naples, hein, 3-2.
Oui, et quelle souffrance, mais aussi quel caractère pour cette équipe de Naples qui a surmonté un obstacle plus difficile que prévu. Un match très équilibré et qui à la fin a rendu mérite aux Napolitains qui ont su rester concentrés devant un adversaire déchaîné et réaliser le but de la victoire avec l'Algérien Fatsi Goulam qui avec une précise frappe du pied droit a trompé le gardien adversaire à 7 minutes de la fin des temps réglementaires. Naples fête donc sa sixième victoire en 6 matchs, qui constitue un record absolu pour le club, mais surtout confirme que cette équipe, en ce moment de la saison, peut être considérée dans la course au titre final, le vrai, le principal concurrent de la Juve.
Enfin, les deux clubs milanais, Matteo, étaient programmés pour aujourd'hui dimanche. L'un a gagné, l'autre pas.
Oui, parce que les villes de Milan et Gênes se sont croisées avec leur respective équipe. Ça a mal tourné donc pour l'AC Milan en camp et tard dans le procès de construction d'une équipe complètement renouvelée. Les Rossoneri ont été battus 2-0 par la Sampdoria. L'Inter, tout au contraire, a réussi à s'imposer sur Genoa seulement grâce à un but réalisé par les défenseurs d'Ambrosio à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Les interistes, toujours invaincus en championnat, assurent donc que leur troisième place au classement, 2 points seulement du duo de tête, composé par le Naples-Juve, a noté un excellent début du jeune français d'origine ivoirienne, Yann Karamo. Spalletti l'a lancé dans la mêlée à 20 minutes de la fin, et il a su se faire apprécier par les tifosi interistes, surtout grâce à quelques belles actions très techniques. On entendra encore parler de celui-là, j'en suis sûr.
Vous nous rappelez son nom ?
Yann Caramo, il jouait à Caen l'année passée.
Absolument. Merci, merci Matteo pour ce témoignage. Direction l'Allemagne à présent pour évoquer la Ligue des Champions, hein, puisque mardi le Borussia Dortmund recevra le Real Madrid et puis mercredi le Bayern de Munich sera en visite au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Notez que ce match, vous pourrez d'ailleurs le suivre en direct en intégralité sur notre antenne en compagnie d'Éric Chorin et d'Olivier Pron. Bonsoir Julien Méchaussier.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors en un mot commençant, le Bayern de Munich en ce moment n'est pas au mieux de sa forme. En d'autres termes, il est prenable.
Oui, pour une raison toute simple. Hein, les quintuples champions d'Allemagne signent leur plus mauvais départ en Bundesliga depuis la saison 2011-2012. Bon, alors on parle quand même du Bayern, hein, donc ça reste encore présentable, hein, avec 13 points en 6 matchs et une troisième place au classement. Mais voilà, encore en ouverture de la sixième journée vendredi, le Bayern n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, 2-2 à la maison, hein, face au VfL Wolfsburg, l'équipe de l'international français, Joshua Gilavogui, qui fait un début de saison catastrophique, hein, qui a déjà changé d'entraîneur. Et c'est surtout le scénario du match, hein, qui inquiète ici. Les Bavarois, après avoir mené 2-0, sont fait rattraper, hein, en toute fin de match et on n'a vu absolument aucune réaction de la part des joueurs de Carlo Ancelotti.
Alors ça tombe mal, hein, Julien, parce qu'en ce moment, c'est l'Oktoberfest, hein, la fête de la bière qui bat son plein à Munich. L'ambiance pourrait être à la fête, c'est pas le cas, avec notamment la blessure, hein, du gardien du Bayern, Manuel Neuer, qui sera éloigné des terrains pour plusieurs mois.
Ouais, international allemand de nouveau blessé, hein, on s'en souvient, il avait déjà raté la Coupe des Confédérations et tout le début de saison, hein, Manuel Neuer déjà opéré, qu'on reverra donc qu'en 2018 sur le terrain. Son remplaçant, Sven Ulreich, lui, il s'est pas vraiment montré à son avantage, hein, vendredi notamment avec le premier but de Wolfsburg, hein, qui est pour lui avec une énorme faute de main, et le Bayern, hein, qui se retrouve avec un problème de gardien, puisque derrière Sven Ulreich, qui n'a joué que 7 petits matchs la saison dernière, il y a juste un tout jeune gardien de 17 ans. Et ce match à Paris, évidemment, inquiète beaucoup ici. Hein, on en fait des tonnes sur l'attaque du PSG. Et Thomas Müller, comme à son habitude, hein, il a bien résumé la situation de son club avant ce match. Mercredi soir, hein, selon le résultat, les Bavarois sauront s'ils traversent une vraie, vraie mauvaise période ou si ils ont été capables de réagir.
Alors l'autre gros match de la semaine prochaine, on l'a dit, ce sera Dortmund contre le Real Madrid. Et par contre, du côté du BVB, le Borussia Dortmund, eh ben tout va bien.
Même très bien, Dortmund en mode démonstration. Hier, à la maison, face à l'autre Borussia, le Borussia Mönchengladbach, toujours, hein, sans le Guinéen Ibrahima Traoré, le Messi de Conakry, blessé à la cuisse. Victoire 6-1 pour les hommes de Peter Bosz, avec un Pierre-Emerick Aubameyang en feu. Hein, le Gabonais a signé un triplé et il prend déjà la tête du classement débuteur, devant bien sûr Lewandowski, avec déjà 8 réalisations en 6 match. Le Borussia, donc, solide leader de cette Bundesliga avec 16 points, dont 2 d'avance, hein, sur son dauphin Hoffenheim. Et la dernière fois, hein, Frédéric, que le Bayern a connu un aussi mauvais départ, et bien c'est le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp qui avait été sacré champion d'Allemagne.
Julien Méchaussier en direct de Berlin dans Mondial Sport.
Mondial Sport sur RFI.
Alors cet été, je ne vous apprends rien, le marché des transferts dans le football a battu tous les records, hein, 400 millions dépensés par le Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Neymar et de Mbappé. Barcelone n'est pas en reste, 105 millions d'euros dépensés pour le seul Ousmane Dembélé, qui à peine arrivé d'ailleurs s'est blessé pour plusieurs mois. S'il a permis au Borussia Dortmund d'arrondir son compte en banque, Ousmane Dembélé a aussi fait le bonheur financier de ses clubs formateurs, et ceci en raison de la règle dite de contribution solidarité, une règle sur laquelle s'est penché notre stagiaire Tom Rossi.
C'est une règle instaurée par la FIFA il y a 16 ans, mais ses effets sont de plus en plus visibles avec la flambée des prix des transferts. La contribution solidarité permet aux clubs formateurs de recevoir eux aussi de l'argent quand un de leurs anciens joueurs est transféré. Ils se répartissent 5% du montant du transfert, mais seules les années de formation entre 12 et 23 ans comptent. Grâce à ce mécanisme, le club amateur d'Evreux en Normandie va toucher une belle somme. C'est là-bas qu'Ousmane Dembélé a commencé à jouer au foot avant de partir à Rennes à 13 ans et d'être transféré à Dortmund, puis au FC Barcelone pour 105 millions d'euros. Le club normand devrait empocher environ 260 000 euros, c'est près de la moitié de son budget annuel. Et ça va changer le quotidien des licenciés, selon Philippe Mongreville.
Déjà, ça va permettre de pérenniser le club, et puis ça va me permettre de donner accès à des demandes que je ne pourrais pas honorer, des équipements sportifs, des équipements vestimentaires. ce va être le premier cadeau visible qui sera en fait la conclusion du transfert d'Ousmane. On va aussi permettre à l'ensemble des équipes du club qui se déplacent au-delà de 150 km de le faire dans des conditions sécurisées via un bus avec chauffeur, alors que jusque-lors c'était nos minibus avec des équateurs, voire même des joueurs parfois qui conduisaient. Ça va me permettre également peut-être de changer un ou deux minibus qui commencent à être au bout.
Sauf que cette contribution ne concerne que les transferts internationaux. L'AS Bondy en Seine-Saint-Denis ne touchera donc rien pour le transfert de Kylian Mbappé de Monaco à Paris. Une situation injuste selon Raffaele Poli, responsable de l'Observatoire du football au Centre international d'études du sport. Et pour lui, ce mécanisme doit aller encore plus loin.
La première chose à faire, c'est d'augmenter ce 5%. Ne serait-ce qu'en le doublant, il y aura de doubles recettes au club formateur. Ça peut être aussi des grands clubs, hein, d'ailleurs. Après, si on augmente cette contribution, on pourrait décider aussi, par exemple, de donner le même pourcentage aux années aux jeunes, c'est-à-dire, je ne sais pas, à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à 15 ans, ça compte la même chose qu'entre 15 et 23 ans, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Les pays qui forment et exportent beaucoup de joueurs sont donc censés être ceux qui en profitent le plus. Cela concerne surtout le Brésil, l'Argentine, la France et les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais pourtant, beaucoup de petits clubs ne perçoivent rien.
Ces 5% ne sont pas automatiques, ça doit être les anciens clubs de ces joueurs qui les demandent. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, il n'y a pas tout le monde qui connaît les règlements. Ou alors, ces clubs européens-là aussi font recours. Donc du coup, il faut aller jusqu'au tribunal arbitral du sport. Il faut que ces petits clubs engagent des avocats. Ça leur coûte cher, l'argent ne vient pas, il faut avancer de l'argent. La FIFA faisait le constat aussi que ces 5%, en fait, il n'y a même pas un peu plus de la moitié seulement qui est véritablement reversée. Donc ça pourrait être corrigé, c'est-à-dire qu'il y a une certaine automaticité.
Mais tous ne sont pas d'accord. C'est le cas de Philippia, le co-président de l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels. Il souhaite que cette contribution ne soit pas à la charge des clubs.
C'est pas la responsabilité du football professionnel de financer les clubs amateurs. Ça pourrait être une partie des droits télévisuels qui seraient mis dans un pool. Ce pool récompenserait les clubs formateurs. Pour pas que ça soit ou le nouvel employeur ou le joueur qui doivent supporter ça, parce que ça constitue une entrave à la liberté du travail. Faut pas oublier que quand un joueur est transféré, le club qui va l'acheter doit investir. Et justement, la réponse qui est donnée à cette question peut faire que le joueur qui souhaiterait changer de club ne puisse pas le faire parce que le club acheteur ne serait pas d'accord de payer notamment les 5% du montant global des indemnités mises à sa charge.
Cet été, dans le monde, il y a eu 7590 transferts pour un montant total de 4 milliards d'euros.
Un chiffre qui laisse rêveur. Merci à Tom Rossi, à qui la rédaction sportive de RFI, où il vient d'effectuer un stage très réussi, souhaite bonne route pour la suite de ses études. Ils sont trois sur la ligne de départ, trois dossiers, trois candidatures dans l'optique de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023. Demain à Londres, la France, l'Irlande et l'Afrique du Sud viendront présenter leurs arguments, plaider leur cause auprès des représentants de la Fédération Internationale de Rugby, l'IRB, lesquels rendront leur décision finale le 15 novembre prochain à Dublin. Olivier Sclaveau, notre correspondant à Londres, a emboîté le pas de la délégation française.
C'est sous un soleil rare et chaud de ce début d'automne londonien que la délégation française emmenée par Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, et Sébastien Chabal, désigné chef de file de cette candidature France 2023, ont passé leur dimanche à réviser leur grand oral. Demain, la France tentera de convaincre le jury de la Fédération internationale de rugby pour organiser la Coupe du Monde 2023. Dans le parc de Kensington Gardens, juste à côté de l'hôtel où aura lieu l'examen, les deux hommes se sont montrés confiants quant aux forces de cette candidature. Les anciens champions sont impatients à l'idée de se lancer, et notamment Bernard Laporte qui semble retrouver des habitudes de veille de match.
C'est comme un match quand on arrive la veille, quoi. Il nous tarde effectivement que le coup de sifflet soit donné. On est là pour ça, donc on est déterminé, motivé, et c'est vrai que je ne dirais pas que nous sommes impatients, mais on a envie effectivement de défendre notre candidature en laquelle on croit énormément.
Et moi je disais toujours à mes joueurs, attendez, peu importe contre qui on joue, eux partent du principe qu'ils seront bons. À nous de bien faire les choses. Souvent on perd les matchs parce qu'on ne fait pas bien les choses. J'ai dit la même chose depuis 3 mois. Soyons performants, je ne connais pas le dossier irlandais, je ne connais pas le dossier sud-africain, mais c'est sûr qu'ils auront un bon dossier. Ils ne sont pas stupides, ils travaillent bien. Voilà, à nous, encore une fois, de se surpasser. Le fait d'avoir de la concurrence nous a aussi obligés à se surpasser et aller loin avec un dossier beaucoup plus performant.
Comme l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Sébastien Chabal, son ancien joueur, y voit lui aussi des parallèles avec son passé sur le terrain et lui aussi est très confiant.
Je suis certain qu'on gagne, enfin, je vois pas comment on peut la perdre. Mais maintenant, voilà, le match n'est pas encore totalement joué, il reste... Les 5 ou 10 dernières minutes, donc à nous de continuer à faire le boulot. Et demain on fait partie avec une séquence un peu émotion, on va dire.
Les équipes de Bernard Laporte travaillent sur ce dossier depuis longtemps. Et lui veut croire que les atouts de la candidature sauront convaincre leur auditoire. Des atouts nombreux, en plus une expérience en matière d'organisation de grands événements sportifs. Alors que l'Hexagone a déjà accueilli le tournoi en 2007 et vient de décrocher les Jeux Olympiques 2024 après un Euro 2016 réussi.
Une des forces, c'est l'économie. C'est une réalité. D'abord, pourquoi l'économie ? Parce qu'on a des stades neufs. Un, ça fait la différence. Deux, on sait très bien par rapport à 2007 qu'on a vendu énormément de billets. C'était 2 millions en 2007. On est parti sur 2,5 millions en 2023. La troisième chose, c'est les infrastructures. Transport, hôtellerie, aéroport, tout ça est performant côté français. Donc voilà, ce sont des atouts considérables, mais je le répète, l'aspect économique, je pense, nous est favorable.
La France est en concurrence avec l'Irlande et l'Afrique du Sud sur ce dossier. Les Irlandais n'ont jamais accueilli la Coupe du Monde. Sébastien Chabal et la délégation française sont conscients des forces de leurs adversaires, mais pensent que leurs efforts vont payer.
Les trois nations, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Irlande ou la France, ont des points forts, des points faibles, ont des atouts et des faiblesses. Et je crois qu'on a essayé de gommer un maximum nos faiblesses. Et aujourd'hui, j'en vois plus. Aujourd'hui, je vois juste un dossier qui a été très très bien monté et qui va apporter plus de garanties que ce que demande World Rugby pour le développement du rugby mondial, pour le soutien du rugby mondial.
Un bémol cependant pour la délégation, elle comptait sur le soutien en personne du président Emmanuel Macron. Celui-ci ne pourra pas être là et a délégué Laura Flessel, la ministre des Sports, pour appuyer le dossier. L'examen passé, tous attendront la réponse finale qui sera donnée le 15 novembre prochain après le vote des fédérations. Olivier Sclaveau, Londres pour RFI.
Verdict donc le 15 novembre prochain pour savoir qui organisera la Coupe du Monde de rugby 2023.
Mondial Sport.
Rappelez-vous, il y a un an et demi, l'affaire Serge Aurier, il insultait copieusement coéquipiers et entraîneurs sur le réseau Periscope. Puis cette semaine, on apprend qu'un autre footballeur, Leivin Kurzawa, s'est fait filmer en train de dire du mal de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, et qu'un maître chanteur lui réclame des centaines de milliers d'euros pour ne pas diffuser la vidéo. Pourquoi pas ? Mais il n'y a pas que les arrières latéraux du Paris Saint-Germain pour défrayer la chronique via les trop fameux réseaux sociaux. Aux États-Unis, un grand champion est lui aussi dans la tourmente. Nous partons donc à New York. Bonsoir Grégoire Pourtier.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Alors Grégoire, j'ai parlé d'un grand champion, j'aurais pu dire une superstar de la NBA, puisqu'il s'agit d'une affaire qui touche Kevin Durant, l'un des meilleurs joueurs de basket et de la planète depuis 10 ans.
Oui, en effet, Kevin Durant, c'est un ailier élégant, décisif, polyvalent, vraiment un très beau joueur et qui a longtemps été un des chouchous du public américain. Mais cette semaine, il s'est fait attraper par la patrouille et cela aplombe sa cote de popularité qui était déjà en berne. Alors, qu'a-t-il fait ? Eh bien, il a insulté ses anciens coéquipiers et l'entraîneur de sa précédente équipe, le Oklahoma City Thunder. Mais surtout, il a fait ça en se cachant derrière de fausses identités sur les réseaux sociaux. Ainsi, en se faisant passer pour un simple supporter, il a expliqué en substance que Durant, donc lui-même, n'aimait pas son coach et qu'à l'exception d'un seul, ses anciens partenaires étaient tous des nuls. Bref, qu'il était parti parce qu'il n'aurait jamais gagné le titre dans ces conditions. Le problème, c'est qu'il s'est emmêlé les pinceaux entre ses différents comptes et qu'il a publié ce message sur son adresse officielle. C'est ballot, il a très vite effacé son texte, mais un internaute avait eu le temps de faire une capture d'écran et la polémique a donc éclaté.
Alors Kevin Durant, c'est un garçon qui est au sommet de sa gloire, il a remporté le titre NBA en juin dernier, il a même été élu meilleur joueur des finales. Alors Grégoire, pourquoi a-t-il besoin de se justifier ainsi et de jouer à ce jeu plutôt dangereux sur Internet ?
Oui, effectivement, il a atteint son Graal en juin dernier, mais sa popularité est vraiment écornée depuis son départ d'Oklahoma City l'an passé. En fait, après 9 saisons avec la même franchise, il avait décidé de rejoindre les Golden State Warriors et cela a rendu complètement furieux une bonne partie des fans américains, pas seulement ceux d'Oklahoma City d'ailleurs, car les Warriors sont devenus quasi invincibles avec une concentration de stars inédite en NBA. En général, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne ici, les meilleurs joueurs sont dispersés et surtout, ce choix de la facilité a été très mal vu. Et en effet, effet, avec un Durant devenu immédiatement leur leader offensif, les Warriors ont écrasé le championnat l'an passé et il pourrait bien en être de même cette saison, voire les suivantes.
Grégoire, la tradition veut que le champion soit reçu à la Maison Blanche, mais certains Warriors ne voulaient pas aller serrer la main de Donald Trump et le président américain leur a donc fait comprendre qu'il n'était tout simplement pas invité.
Ouais, ils étaient plusieurs à avoir dit qu'ils n'étaient pas très chauds à l'idée de s'afficher à côté de Donald Trump. Kevin Durant faisait partie de cela d'ailleurs. Et donc Donald Trump a choisi de lancer la guéguerre ce week-end via Twitter. Et les réactions contre le président américain ont fusé de toutes parts. La plus cinglante, celle de LeBron James, le meilleur basketteur de ces 10 dernières années, qui a carrément traité Trump de minable. Les Warriors, eux, ont collectivement confirmé qu'ils n'iraient en aucun cas voir le président, et ils ont ajouté qu'ils se rendraient tout de même à Washington, mais en restant à l'extérieur de la Maison Blanche pour y prôner l'égalité, la diversité et l'inclusion. Mais bon, tout ça, ce sont des mots, le championnat NBA ne reprend que dans un mois, et Trump ne s'est pas contenté en fait de cette polémique, il s'est aussi mis à dos le très populaire football américain. En fait, il avait attaqué un joueur qui l'an passé s'était agenouillé pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières faites aux Noirs, et aujourd'hui, il y avait plusieurs matchs, et on a vu des dizaines de joueurs, voire des équipes entières, prendre position contre le président avant le début des rencontres, et je peux vous garantir que les images étaient spectaculaires, que cela a fait énormément de bruit, et que c'est loin d'être fini.
Grégoire Pourtier, en direct de New York. Et de 3 pour Peter Sagan, sacré champion du monde de cyclisme sur route pour la troisième fois cet après-midi sur le circuit de Bergen en Norvège. Le coureur slovaque s'est intelligemment fait oublier pendant toute la course. Il a devancé au sprint le Norvégien Alexander Kristoff et l'Australien Michael Matthews. Le meilleur Français, Julien Alaphilippe, échappé dans le dernier tour, a été repris à quelques coups de pédale de l'arrivée. Il s'est classé finalement 10e. Jean-Luc Gatelier, bonsoir. Vous êtes sur place à Bergen, l'envoyé spécial de notre confrère Le Quotidien L'Équipe. Peut-on parler à propos de Peter Sagan d'une victoire logique?
Une victoire attendue, logique, oui, parce que c'est lui le plus fort. Il a une force bestiale qui fait qu'il peut se permettre de gagner une course sans équipier, en profitant certes du travail des autres, mais c'est logique, il n'avait pas d'équipe.
Est-ce qu'on peut dire que Peter Sagan s'est caché pendant toute la course pour finalement surgir au bon moment?
Oh bah totalement, hein. Il a même eu un comportement qui a pu surprendre certains coureurs, mais il est assez coutumier du fait. Il semblait se désintéresser de la course. Il était à l'arrière ou au milieu du peloton, il chambrait entre guillemets certains coureurs gentiment. C'était une attitude assez incroyable, hein. Complètement désinvolte pendant une grande partie de cette course. Et puis à deux tours de l'arrivée, on l'a vu pas très loin de la tête, à un tour il était là. Sans garantie évidemment, puisqu'il lui fallait absolument tirer une seule cartouche, c'était celle du sprint, pour l'emporter. Et ça s'est passé de manière incroyable à nouveau pour lui, parce que Kristoff pensait pouvoir l'emporter. Et finalement, il a été dépassé au dernier moment de justesse par le Slovaque.
Un Français s'est détaché dans le dernier tour. C'est celui sur lequel la France comptait pour un titre éventuel. C'était Julien Alaphilippe. Il a finalement été repris. Est-ce qu'il a porté son attaque trop tôt?
Non, parce que le seul endroit où vous pouviez faire la différence quand vous n'êtes pas sprinter, c'est dans cette côte. Le problème, et ça c'est le circuit ainsi, la côte était le sommet de la côte était à presque 11 km de l'arrivée. Donc, loin de l'arrivée, effectivement, pour résister à un retour du peloton avec des équipes qui étaient encore organisées pour leurs finisseurs. Mais il a attaqué exactement là où il fallait attaquer. C'est ce qu'il voulait faire, il l'a fait. Le problème, c'est que l'Italien Gianni Moscone n'a pas totalement collaboré, je dirais. Il avait derrière lui son leader Trentin et il avait pour mission, a priori, de ne pas tout donner. Et puis, il faut dire aussi que ces deux coureurs étaient vraiment au bord de l'épuisement. Donc Alaphilippe, n'ayant pas une vraie collaboration à attaquer Trentin sur les pavés, à environ 4,5 km de l'arrivée. Donc là, on a cru qu'il s'envolait vers la victoire. On a vraiment cru. Et Moscone a rejoint 2 km de l'arrivée. Puis le peloton, c'était terminé. Mais il a fait une très très belle course. Comme il le dit lui-même, il faut bien voir cette nuance. Je suis très déçu, mais je n'ai pas de regrets.
Jean-Luc Gatelier, vous avez suivi toute cette course. Il y avait beaucoup de nations représentées. Il y avait notamment quelques coureurs africains. Est-ce qu'ils se sont mis à un moment ou à un autre en évidence?
On a vu l'Algérie, le Maroc tenter des choses, mais souvent en début de course. C'est pas facile. En tout cas, ils étaient bien présents. Ils étaient bien. L'Afrique était bien présente. L'Érythrée, le Rwanda, ils avaient leurs représentants. Alors bien sûr, c'est compliqué hein, face aux grandes nations européennes ou l'Australie ou Vraiment, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Globalement, le bilan de la France dans ces championnats du monde vous semble bon, j'imagine, avec cette médaille de bronze sur le contre-la-montre espoir, avec ce titre mondial chez les espoirs sur la route, et puis l'élection de David Lapartien à la tête de l'Union cycliste internationale.
Oui, c'est un bon bilan. C'est un bon bilan parce que ces médailles sont obtenues chez les espoirs, c'est-à-dire les coureurs de moins de 23 ans. C'est-à-dire des coureurs qui vont passer professionnels. Benoît Cochenefroy chez AG2R La Mondiale est pro depuis le 1er août. L'an prochain, Corentin Hermenot courra pour la nouvelle équipe Vital Concept. Donc ce sont des coureurs d'avenir qui ont 21-22 ans. Et c'est important, je pense, de briller dans ces catégories-là.
Et puis on n'oublie pas que c'est un Français désormais qui préside aux destinées de l'Union cycliste internationale. David Lapartien, ancien président de la Fédération française de cyclisme. Est-ce que le score qu'il a réalisé face à son adversaire, l'ancien président Brian Coxon, vous a vous-même surpris?
Oui. Parce que, bien sûr, nous avons beaucoup les pronostics à les bons trains. Hein. La veille de l'élection, on le donnait vainqueur d'une courte tête ou alors vraiment à égalité. Et l'ampleur du score a vraiment surpris. Cela ne vous a sans doute pas échappé, mais il a promis une organisation du championnat du monde à l'Afrique pour ces prochaines années, qui est un événement, bien sûr.
Oui, l'Afrique qui lui a apporté ses 9 suffrages. L'Afrique a voté en masse, en unanimité, absolument, pour David Lapartien.
Absolument. Le succès est vraiment total. Hein. Donc c'est forcément une bonne chose pour la France. C'est une bonne chose, j'espère, pour le cyclisme. Hein.
Jean-Luc Gatelier, merci. Je rappelle que vous étiez à Bergen, l'envoyé spécial du quotidien L'Équipe, et que tous vos lecteurs pourront retrouver votre reportage, bien sûr, et vos commentaires dans l'édition de demain. Merci, bonne soirée et bon retour sur Paris. Un dernier mot, sachez que l'Espagnol Marc Marquez, qui pilote une Honda, a remporté cet après-midi la 13e des 18 manches du championnat du monde MotoGP disputé sur le circuit d'Alcaniz en Espagne. Il a devancé son coéquipier et compatriote Dani Pedrosa et un autre Espagnol, Jorge Lorenzo, qui pilote lui une Ducati. Merci à Quentin Bresson et à Jean-Philippe Thury qui ont réalisé cette édition de Mondial Sport. Et à très bientôt pour un autre rendez-vous sportif. Dans quelques instants, ce sera Mickaël Ponge pour un nouveau journal sur RFI.